Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, Uzbin, du nom de cette vallée en Afghanistan où le 18 août 2008, 10 soldats venus de France ont trouvé la mort pris dans une embuscade. C'est ce jour-là, en plein été, que les Français se sont rendus compte qu'ils étaient en guerre. Une guerre sans nom, une guerre en leur nom, depuis 7 ans déjà, à 5000 km de chez eux. Uzbin, c'est le nom d'une tragédie qu'on murmure entre soldats envoyés en Afghanistan comme symbole de leur peur, en particulier d'une attaque surprise, sans pouvoir ni décrocher, ni riposter. Symbole aussi d'un choc, celui des visages des disparus publiés à la une des journaux. Et puis, tout simplement, les 10 morts d'Uzbin représentent la plus grosse perte de l'armée française depuis l'attentat du Drakkar en 1983 à Beyrouth. Il y a eu avoir 20 ans dans les Aurès, il y a aussi avoir 20 ans à Uzbin. Là encore, c'est l'histoire de jeunes soldats envoyés pour certains pour la première fois au front. C'est enfin l'histoire de leurs parents et de leurs proches, et celle d'une controverse, du poids d'un mot qu'on hésite à utiliser du côté des gouvernants, le mot « guerre ». Aujourd'hui encore, il y a débat. La France est sur le terrain d'opérations militaires, mais est-elle en guerre? Si oui, depuis quand? Au nom de quoi? Sous quel mandat des soldats français sont-ils envoyés? Nous y reviendrons en seconde partie de l'émission avec notre invité Jean-Dominique Mercher, journaliste au journal L'Opinion, animateur du blog Secret Défense et auteur notamment de l'ouvrage intitulé « Mourir pour l'Afghanistan ». Durant cet entretien, vous entendrez également un reportage d'Anel Verzo qui est allé à la rencontre de la mère d'un soldat mort à Uzbin. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France. Coordination Christophe Barrère, attaché de production Valérie Bourg, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Alice Berger.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
En France, les batailles, l'armée et les soldats sont des souvenirs qu'on honore ostensiblement le 14 juillet et puis aux dates anniversaires des armistices. En grande pompe, on sort les uniformes, les décorations et les orchestres. C'est le spectacle qui nous permet de nous souvenir des disparus sous nos drapeaux. En regardant le défilé, on se rappelle que la guerre existe avec son cortège de morts. Elle se rappelle à nous également au détour d'une rue qui porte le nom de soldats tués au combat. À Castres, dans le département du Tarn, se trouve l'avenue Jacques Desplats, du nom d'un soldat de 26 ans, mort en juin 40 lors de l'avancée allemande. Sur cette avenue se situe aussi une caserne, celle du 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Héritier du 8e bataillon de parachutistes coloniaux, le 8e RPIMA a connu toutes les opérations militaires conduites par la France, de l'Indochine à l'Algérie, de l'Afrique au centre de l'Europe. Ici vivent de jeunes recrues qui attendent l'appel pour l'épreuve du feu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils se sont engagés, oui, pour connaître les combats, l'aventure des armes, la guerre et leur métier. En 2008, la ligne de front se trouve à 5000 km de Castres, en Afghanistan. Sur cette terre lointaine des mille et une nuits dont on a lu les contes et légendes, la guerre a élu domicile. Aujourd'hui, les jardins de Babour, racontés par les écrivains et journalistes qui un jour ont pris la route de la soie, ne sont plus qu'un souvenir enfoui dans la poussière des hélicoptères et des bombardements. Car voilà bientôt 40 ans que les canons et mortiers tonnent dans les gorges et les vallées des montagnes du Panchir, comme sur les plaines du Sud. Après la guerre contre les soviétiques, qui débute un jour de décembre 1979, c'est la guerre civile qui embrase le pays. En 1996, les talibans fondamentalistes musulmans prennent Kaboul sans que les grandes puissances ne s'inquiètent du climat de chaos qu'ils imposent aux habitants. Il faudra attendre que les tours du World Trade Center s'écroulent à New York pour qu'on se souvienne des appels à l'aide du commandant Massoud, sorte de Che Guevara du Panchir, ennemi juré des talibans fanatisés. Après le 11 septembre 2001, les États-Unis se lancent en guerre contre le régime des talibans, ces fous de Dieu protecteurs de Ben Laden. Signataire du traité de l'Atlantique Nord, la France de Jacques Chirac et de Lionel Jospin s'engage auprès de la coalition internationale. À la chute de Kaboul, les militaires français ont pour mission ce qu'on appelle l'assistance à la sécurité dans le cadre de la résolution 1386 des Nations Unies. Un cahier des charges qui se limite à des opérations aériennes et à la formation de la police et de l'armée afghane. En avril 2008, lors du sommet de l'Alliance Atlantique à Bucarest, Nicolas Sarkozy décide d'envoyer un bataillon supplémentaire de 700 hommes en Afghanistan au sein de la FIAS, Force Internationale d'Assistance et de Sécurité. Parmi les trois zones de déploiement des forces françaises, il y a Surobi, située au nord-est de Kaboul. Dans ce district se trouve la base opérationnelle avancée de Tora. C'est là, juché en haut d'une montagne, que débarquent les hommes du 8e RPIMA. Pour la plupart, c'est leur première mission en Afghanistan et d'une manière générale en dehors de la France. La plupart ont 20 ans. Dès leur arrivée, la guerre s'impose. Bruit lointain des canons, soldats armés au poing à chaque coin de rue, tout y est. Quand les soldats arrivent au camp Warehouse, quartier général tactique de la Force internationale d'assistance et de sécurité, les drapeaux sont en berne. Après quelques jours, ils partent pour la base de Tora, où ils arrivent le 5 août 2008. Sous un soleil de plomb, ils déchargent leurs sacs et découvrent les conteneurs qui leur serviront de chambre. Chacun essaie de trouver un petit lieu où accrocher des photos de la famille, des amours et des amis. Parmi eux, il y a Damien Gaillet, 20 ans. Son grand-père avait fait l'Algérie. C'est pour lui et pour le goût de l'aventure, sans doute, que Damien s'est engagé. Avant de partir pour le front, il a amené Aurélie, sa petite amie, sur la plage de Ouistreham, dans le Calvados, pour la demander en fiançailles. Le 19 août, de Caen à Castres, Aurélie, comme tous les proches de soldats, retient son souffle en apprenant cette nouvelle.
10 soldats français ont été tués en Afghanistan.
21 autres sont blessés. Ces militaires français participent à la force d'assistance internationale.
En ce moment même et depuis hier, des soldats français de l'OTAN sont engagés face aux talibans dans un combat que l'on qualifie sur place d'incident majeur et pour cause. 10 de ces soldats français ont été tués, on parle de 21 blessés.
On l'apprenait il y a un peu plus d'une heure, 10 soldats français de la force de l'OTAN en Afghanistan ont été tués dans une embuscade.
Ça s'est passé à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Kaboul.
Damien, comme 9 de ses frères d'armes, est mort le 18 août 2008 à Ouzbin, en Afghanistan. Les Français, eux, étaient les pieds dans l'eau, profitant des vacances, alors qu'en Afghanistan, d'autres Français tombaient sous les balles. Alors, que s'est-il passé? Au nom de quoi sont-ils morts, là-bas? Afghanistan, août 2008. Voilà 2 semaines qu'ils ont quitté la France pour atterrir à Kaboul, dernière étape d'un chemin que chacun a entamé selon ses propres choix et réflexions, et qui les a poussés à signer un papier qui les a fait soldats de France. En juin, ils ont appris qu'ils débarqueront en Afghanistan pour une mission longue. Depuis cette date, ils poursuivent un entraînement de pointe, perfectionnent leur anglais et apprennent les éléments importants de la coutume afghane. D'ailleurs, que leur dit-on sur l'histoire du pays, de la situation sur place? Depuis la prise de Kaboul, la mise en place d'élections et d'un gouvernement afghan, les frappes ne sont pas interrompues dans les montagnes afghanes. La sécurité dans le pays est une vue de l'esprit. À chaque moment, une bombe peut exploser n'importe où. Ici, la guerre, ce ne sont pas deux armées qui se font face pour gagner une colline, une plaine, non. Non, la guerre est partout, invisible. Dans la tête des soldats, l'ennemi peut être n'importe qui, le paysan, le voisin, l'interprète. Comme le raconte cet homme dans un reportage de Memento Film Production, diffusé dans Envoyé spécial au printemps 2008.
On a les villageois et tous les ennemis qu'on a, toute la journée ils nous voient passer, ils nous font coucou, ils sont en train de bêcher leur lopin de terre. Et au retour le soir, ils ont la calache ou le RPG à côté et c'est eux qui nous tirent dessus. Et 2 minutes après, ils nous refont coucou. Il n'y a pas d'ennemi vraiment clair, quoi. Il n'y a pas d'uniforme, il n'y a rien du tout.
Et les embuscades?
C'est intense. C'est pour ça que c'est important d'être toujours prêt. Parce qu'on n'a pas droit à l'erreur. Il faut qu'on fasse baisser la tête à l'ennemi tout de suite, sinon nous on reste sur le carreau au milieu de la route. Hein.
Sans uniforme, sans étendard, la crainte, c'est l'accrochage. Pour tout soldat, c'est la hantise d'être pris au dépourvu sous les balles de l'ennemi, sans pouvoir riposter ni se mettre à l'abri. Dans ces conflits modernes, la guerre n'a plus d'altitude, plus de distance. Avec les drones notamment, elle est lointaine et silencieuse. Mais aussi à portée de main, avec les attentats, les embuscades contre les soldats. Si la coalition a l'argent, les armes, la technologie, les talibans, eux, ont la surprise, la connaissance du terrain, les symboles et l'histoire. Ce n'est pas seulement la puissance des armes ou le nombre de soldats qui compte, mais les coups d'éclat, les brèches dans le moral de ces hommes envoyés au bout du monde, loin de leur pays. À la base de Tora, en ce début du mois d'août 2008, les soldats français prennent place. Et très vite, la peur remplace l'excitation de l'action. le 8 août, quelques-uns effectuent une mission de reconnaissance dans la vallée d'Ouzbin. Ils prennent contact avec la population, s'habituent au paysage et au climat. Le 18 août, une nouvelle mission du genre est programmée. La patrouille doit atteindre un col et s'enfoncer un peu plus dans la vallée. Alors au petit matin, les soldats enfilent tous leurs bardas, gilets pare-balles, grenades, munitions et fusils FAMAS. Certains pour un temps rangent leurs armes pour prendre une caméra et garder des souvenirs de ces jours à la guerre. Derrière les murs de la base, l'ambiance est à la camaraderie et à l'excitation. L'extrait que vous allez entendre, qui en témoigne, est tiré du documentaire « L'embuscade » de Jérôme Fritel.
Bon, c'est Bill. Alors, vous ressentez quoi, là, 48 heures de terrain ?
Bah bien, pour aujourd'hui, c'est mon anniversaire.
Oh, joyeux anniversaire. Vous faites quel âge ? Faites quel âge ? 45 ans ? À 30 ans.
Vers 9h, 60 soldats français quittent la base de Dora. 4 véhicules blindés ouvrent la marche. Ils prennent la route vers le village de Sperkunde. La 4e compagnie du 8e RPIMA est accompagnée d'une section de l'armée nationale afghane, d'une section du régiment de marche du Tchad et de forces spéciales américaines. Alors arrivés au village, les 4 véhicules se disposent à l'est, au pied d'un col qu'un autre bataillon doit atteindre. À pied, 11 gradés et 19 hommes, ceux de la section baptisée Carmine 2 entament l'ascension. Sous une chaleur suffocante et un peu plus lourde à chaque pas, certains soldats perdent pied. D'autres leur viennent en aide, apportant un peu d'eau, pendant que d'autres encore font le guet. Vers 15h45, ils entament le dernier lacet, quand soudain... Les balles sifflent et touchent les premiers soldats, dont le sergent-chef Devez, la radio et l'interprète afghan. Les paras de Carmine 2 sont pris entre deux feux, à leur gauche et en haut. Ils ne peuvent manœuvrer, se retrouvent pris au piège. Plaqués au sol, abrités derrière des rochers, d'autres hommes sont touchés. Pour autant, pas de panique chez ces soldats bien préparés, même si la peur, bien sûr, envahit désormais les esprits. Les munitions sont rationnées et la radio récupérée permet de coordonner les contre-attaques. Comme tout bataillon dans cette situation, dans n'importe quelle guerre, on attend l'arrivée des renforts. Dès l'annonce de l'embuscade, la section Rouge 4 a pris la route. Arrivée au village 8 minutes plus tard, elle est prise à son tour sous la mitraille. Au village, les voitures blindées arrosent la zone, mais les talibans sont trop loin. De plus, les véhicules blindés sont tous sous la menace de lance-roquettes anti-chars. À la base de Tora, des renforts également prennent la route. Pendant l'heure et demie de trajet nécessaire pour atteindre le village, ils entendent les tirs retransmis par la radio et les appels de leurs compagnons d'armes. Comme cet homme qui entend l'embuscade sans pouvoir agir, et cet autre pris sous les balles, moment capté une nouvelle fois dans le documentaire de Jérôme Fritel.
Il disait qu'il commençait un massage cardiaque, que Tahir avait été rafalé, et après quelques minutes décédé. Ça m'a fait vraiment un choc. Le fait de plus entendre sa voix, de plus pouvoir lui parler, de me dire que je le reverrai plus, je le reverrai plus demain. Oui, c'est sûr que ça m'a vraiment, vraiment choqué. Ouais.
Les balles, même si on les voit pas, je vous jure que le son, quand il passe à côté, on sent que ça se rapproche, quoi. C'est même pas la détonation, c'est le bruit des balles qui passent, quoi.
L'aviation également est appelée à l'aide. Les premiers appareils arrivent vers 16h20, mais ils ne peuvent intervenir, les talibans étant trop près des soldats. La seule solution est alors de décrocher de leur position pour permettre aux avions d'intervenir. À 17h45, le caporal Evrard donne l'ordre à ses hommes de déguerpir. Alors, chacun tente sa chance, par à-coup. À chaque sortie, des balles, des blessures et parfois une nouvelle victime. Des heures durant, sous les tirs de l'ennemi, ils attendent et espèrent creuser une brèche pour souffler, enfin. Parmi eux, ce soldat, lui comme les autres, a imaginé le pire.
Ça tapait tout le temps, en fait. Puis on était au creux des lignes de crête. On n'arrivait pas à les localiser parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est que dans la roche, ils se font des grottes. Les grottes, il y a de l'ombre devant, et eux se mettent dedans, et à la distance où ils sont, c'est très difficile de les voir, puisqu'on n'a pas le temps de se focaliser sur un endroit, puisqu'il y a les autres endroits qui tirent. Donc le temps d'observation est vachement réduit. on est obligé de subir. De subir l'adversaire. Et puis, y a une chose qui nous a sauvés, c'est que le chef de section a su garder la radio. Il a gardé la radio même blessé. Et grâce à lui, en fait, il nous a pu nous donner tous les endroits où ils étaient, où c'est qu'on pouvait les appuyer. On les voyait pas, mais par ses contre-indus, on savait où il était. Donc pour nous, en fait, ça a fait un combat coordonné du début à la fin.
Vous êtes vu mourir ?
Oui, parce que on s'est dit, s'ils arrivent trop près, qu'on ne peut plus rien faire, qu'on a fait notre boulot jusqu'au bout, et vaut mieux s'en mettre une que de se faire faire prisonnier ou de se faire tuer par l'ennemi.
C'est l'arrivée des hélicoptères de transport Caracal qui change la donne. Des commandos du CPA 20 sont héliportés. Ils ravitaillent en munitions les soldats du Carmine 2 et secourent les blessés. À partir de 19h, la nuit tombe, la chaleur diminue et l'ombre recouvre les paysages et l'ennemi. 3 heures plus tard, la contre-offensive est lancée. Plus les soldats avancent, plus ils découvrent corps après corps l'étendue du drame. 9 morts et 17 blessés. Le col sera finalement atteint le 19 août, entre 4h et 4h30 du matin. Au même moment, au passage d'un véhicule blindé, une route s'effondre. Le véhicule se retourne, le soldat placé dans la tourelle meurt sur le coup. Il est la 10e victime de la mission de reconnaissance dans la vallée d'Ouzbine. À Paris, enterré au 235 boulevard Saint-Germain, le centre de planification et de conduite des opérations, l'état-major, a suivi les combats, bien sûr. À 7h36 du matin, on lui confirme que le col est pris. Les soldats sont en sécurité. À l'ambassade de Kaboul, à Matignon et au Quai d'Orsay, on demande de garder le silence avant que le président annonce la nouvelle. Oui, c'est au chef de l'État de publier un communiqué domaine réservé. Ce communiqué tombe en fin de matinée. Et on y apprend la visite de Nicolas Sarkozy en Afghanistan sur le terrain des opérations dès le lendemain. 20 août 2008, à 6h30, l'avion présidentiel atterrit à Kaboul. Nicolas Sarkozy est accompagné du ministre des Affaires étrangères et du ministre de la Défense. Il va directement en camp warehouse, où désormais le drapeau tricolore est en berne. Après un passage dans la chapelle ardente où reposent les cercueils, il prend la parole devant les soldats français encore sous le choc du drame de l'avant-veille.
Nous avons été dans la chapelle ardente, j'ai vu ces 10 cercueils, sur chacun d'entre eux, la photo de vos camarades. Et puis l'âge, 20 ans, 21 ans, 22 ans. J'en ai vu parmi vous qui pleuraient, je les comprends. Je vous ai dit que je partage votre douleur. Et ce ne sont pas des mots, sinon je ne serais pas là. Mais en même temps, la meilleure façon d'être fidèle à vos camarades, c'est de continuer le travail. C'est de redresser la tête. Et c'est d'agir en professionnel, pour qu'ils soient fiers de vous. Et que demain, je puisse dire à leur famille que les copains continuent. Ça ne veut pas dire qu'on oublie son chagrin. Ça veut dire qu'on sait pourquoi on est là. Et j'ai pas de doute là-dessus. Il faut être là.
Relever la tête, être là. La formule comme la relative légèreté de certaines intonations passera mal dans les rangs des soldats encore sous le choc de la perte de leurs compagnons. En France, sur les routes du retour des vacances, on découvre alors la vie et les noms de ces soldats tombés au champ de bataille. Voilà 7 ans que les opérations en Afghanistan ont commencé. Pourtant, on a l'impression de la découvrir, cette guerre, et avec ses morts. Après le choc, vient le temps des questions. Avoir 20 ans en Afghanistan, le fanion de la France accroché sur le treillis et y mourir, encore une fois, au nom de quoi ?
Shame, oh shame, babe.
Damien Gaillet, 8e RPIMA. Il avait 20 ans. Il s'est engagé en juin 2007 dans le 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine. C'était le seul métier qu'il voulait faire, disait son père. Julien Lepin, il aurait eu 20 ans hier, c'était son anniversaire. Il s'est engagé à 18 ans au 8e RPIMA, il avait rejoint les forces de l'OTAN au mois de juillet seulement.
21 août 2008, aux soldats, la patrie reconnaissante. Trois jours après l'embuscade d'Ouzbine, où 10 soldats français sont morts, Nicolas Sarkozy leur rend hommage lors d'une cérémonie aux Invalides. Dans la chapelle, le président s'assoit seul, entouré des 10 cercueils recouverts du drapeau tricolore. Chaque famille salue son proche disparu, puis passe devant le président. Après le silence, revient le temps des mots. Au milieu de la cour de ce panthéon des soldats, devant les dépouilles et l'ensemble des membres du gouvernement et des familles, le président prend la parole.
À travers nous qui sommes ici, dans cette cour des Invalides, c'est toute la nation française qui veut rendre hommage à 10 de ses fils. Certains n'avaient pas 20 ans. Ils ont donné leur vie loin de leur pays pour faire leur devoir, pour la liberté des droits de l'homme et pour des valeurs universelles qui sont au cœur de notre République. En tant que chef des armées, je n'ai pas le droit de considérer la mort d'un soldat comme une fatalité. Je verrai les familles dans quelques minutes. Je veux qu'elles sachent tout. Elles y ont le droit. Et je veux que vos collègues ne se retrouvent jamais dans une telle situation. Je veux que tous les enseignements soient tirés de ce qui s'est passé.
Pour Nicolas Sarkozy, la France perd 10 de ses fils, morts pour la liberté, les droits de l'homme et les valeurs universelles. Mourir, oui, mais au nom de qui ? Car il se trouve que l'unité nationale n'est pas de mise pour ses aventures militaires. Dans les couloirs de l'Assemblée et au sein des partis politiques, la présence de soldats français en Afghanistan divise. Dès le 23 août, les partis d'extrême-gauche appellent à un rassemblement pour réclamer le retrait des forces françaises d'Afghanistan. Au Parti socialiste, on s'interroge. Si certains, dont le président du groupe PS à l'Assemblée nationale, Jean-Marc Ayrault, appellent au désengagement pur et simple des forces françaises, Pierre Moscovici, député en charge des questions internationales au parti, rappelle l'engagement de Lionel Jospin auprès de Jacques Chirac en 2001 dans son choix d'appuyer les forces régulières afghanes. François Hollande, encore pour quelques semaines premier secrétaire du Parti socialiste, joue la synthèse et souhaite qu'on ouvre le débat pour faire évoluer le rôle de la France au sein de la coalition. Mais l'offensive des talibans n'est pas terminée. Le 4 septembre, c'est sur le terrain des images qu'est lancée l'attaque. Tel un fantôme revenu de l'enfer, la tragédie de l'embuscade réapparaît en une du magazine Paris Match. Le journal n'a jamais aussi bien porté son slogan « Le poids des mots, le choc des photos ». Le journaliste Éric de la Varenne, accompagné de la photographe Véronique de Vigry, a rencontré le commando taliban qui a abattu les 9 soldats français lors de l'embuscade. Et il témoigne.
France Inter. Que vous ont-ils dit, Éric, très précisément à propos de cette embuscade? Ils avaient eu des détails, ils savaient comment la patrouille arrivait sur place?
Oui. Ils savaient que la patrouille arrivait dans la vallée d'Ouzbine, là où ils les ont attaqués. Ils l'ont su suffisamment à l'avance pour se positionner. Ils nous ont dit qu'ils avaient des caches d'armes, donc pour eux, le transport des armes n'était pas compliqué. Et ils ont réussi finalement à faire en sorte que cette patrouille se retrouve sous un feu intense pendant plusieurs heures. Ils nous ont aussi dit que si la nuit n'était pas tombée, ils les auraient tous tués.
Éric, est-ce qu'ils vous ont confirmé, puisqu'ici la polémique a fait rage autour de cette question, est-ce qu'ils vous ont confirmé qu'ils ont fait des prisonniers parmi les soldats français ?
Non. La question leur a été posée, ni prisonniers, ni actes de torture, c'est ce qu'ils disent, ils savent communiquer, ils connaissent les médias. En tout cas, ils n'ont pas confirmé ces informations.
Dans les pages du magazine, on apprend ainsi la version des faits de l'autre côté. L'embuscade n'était pas préparée, mais les talibans étaient prévenus de la présence de soldats. Ont-ils eu des victimes dans leur rang ? Non, bien entendu. Recommenceront-ils ? Oui, bien sûr. En situation de guerre, l'information n'est que propagande. C'est aussi une arme qui passe certains faits sous silence et transforme la réalité. Classique. Cette publication dans Paris Match générera une polémique pendant quelques jours. Ce n'est pas tant l'interview qui choque, mais la mise en scène des images. Sur les clichés publiés, on voit les talibans avec un casque, un gilet pare-balles et un FAMAS récupérés sur les corps des victimes dans l'obscurité de la nuit du 18 août 2008. Les arborant comme trophées d'une bataille, les talibans posent fièrement. Une autre photo va choquer certains lecteurs et hommes politiques, celle d'une montre appartenant à un soldat français. L'un des assaillants talibans l'a transmise à la photographe pour la rendre à la famille. Cette montre, c'est celle de Damien Gaillet. Il l'avait achetée au début de l'année, avec Aurélie. Côté français, c'est la conférence du général Georgelin du 19 août 2008. Qui par la suite fera polémique. Lors de sa première déclaration, il annonce que les soldats français ont été tués dans les premiers instants de l'accrochage, alors que l'embuscade a duré plusieurs heures et que des soldats sont tombés à des moments différents. On apprendra également plus tard qu'un soldat a été tué à l'arme blanche. Après la polémique des images et des controverses dans les couloirs de l'Assemblée, une question enflamme les intellectuels et les journalistes. Sommes-nous en guerre ? Nicolas Demorand interroge directement le ministre de la Défense dans sa matinale sur France Inter.
Je réfute l'idée du mot guerre. Je dis que une guerre, c'est une guerre contre un autre État. Une guerre, c'est une déclaration de guerre. C'est nous ne sommes pas en guerre contre le peuple afghan. Nous sommes en Afghanistan à la demande du gouvernement Karzai et nous voulons faire en sorte que les valeurs auxquelles nous croyons, nous puissions les défendre. En Afghanistan, il n'y a pas d'un côté la défense des droits de l'homme lorsque la flamme olympique passe à Paris et de l'autre côté la défense des droits de l'homme en Afghanistan. Il y a la défense des droits de l'homme tout court.
Ça ressemble à des images de guerre, Hervé Morin.
Il y a des opérations de guerre.
Prise de guerre, dépouille de guerre, embuscade, on parle bien de ça, non ?
Oui, mais j'ai jamais contesté cela. Il y a des opérations militaires qui sont des opérations de guerre, mais ça n'est pas une guerre au sens d'une guerre d'un État contre un autre.
Faire la guerre, être en guerre, sur le front des mots, la politique hésite à passer de la ligne rouge. Être en guerre, c'est emporter tout un pays dans l'angoisse, la peur du lendemain, c'est envoyer une génération sur le front. Or, ces opérations lointaines, collectives, sur les terres d'accueil de Ben Laden, sont hors champ des médias et des citoyens. Être en guerre, c'est aussi demander mandat aux représentants de la nation. En Afghanistan, après un engagement à distance, Nicolas Sarkozy a fait le choix d'entrer dans les rangs des combattants. Alors, l'épisode d'Usbin ravive ces questions. Mais cela ne changera en rien la stratégie du président. Dès le 5 septembre, les premiers renforts du contingent promis par Nicolas Sarkozy sont à Kaboul. Fin octobre, on constate que le nombre de militaires français sur place a doublé pour atteindre les 2800 hommes. Cette arrivée sera accompagnée d'une augmentation des moyens d'information, de matériel et de soutien logistique. Parmi les proches des disparus, le souvenir reste intact, bien sûr. Le 17 septembre, le ministre de la Défense, Hervé Morin, part avec certaines familles en Afghanistan. Sans journalistes, il découvre le quotidien des derniers jours de leurs enfants. Ce voyage calmera un temps les questions des familles sur le déroulé de l'opération et les erreurs ou non de la hiérarchie militaire. Après les honneurs de la nation, le chant des morts et les drapeaux en berne, le deuil redevient intime, personnel. Les familles des soldats se découvrent ainsi une peine commune qui les rapproche. Un an après les faits, en octobre 2009, dans les pages du journal Le Parisien, on apprend que deux familles de soldats morts lors de l'embuscade d'Usbin ont décidé de porter plainte contre X devant le tribunal aux armées, à Paris, pour mise en danger de la vie d'autrui. Il soupçonne l'existence d'une série de manquements dans la chaîne de commandement. En 2010, les plaintes sont classées sans suite. Il faudra attendre l'année 2012 pour que la Cour d'appel de Paris autorise l'ouverture d'une enquête judiciaire. Toujours en cours, la procédure devra déterminer la chaîne des responsabilités et les erreurs s'il y en a eu. 6 ans après l'embuscade, le 31 décembre 2014, le dernier contingent de l'armée française quitte les terres afghanes après 13 années de présence. Le premier soldat tombé dans cette guerre, c'est le caporal Mourad Yaksi en 2004. Le dernier, le 89e, c'est le caporal-chef Gwenaël Thomas en 2013. Auront-ils un jour une rue, une avenue à leur nom ? côté d'eux, la presque totalité des unités de l'armée de terre française a participé à la campagne en Afghanistan, ce qui représente un peu plus de 60 000 hommes. Qu'ont-ils rapporté d'Afghanistan ? Pour certains, dont les survivants d'Ouzbine, des cauchemars et des questions. Et surtout celle-là, que faisaient-ils là-bas ?
Davenports and kettle drums, swallowtail coats, and tablecloths, and patent leather shoes, and bathing suits, and bowling balls, and clarinets and rings. Radio really needs is a fuse. A tinker, a tailor, the soldier's things, his rifle, his boots, full of rocks. Oh, and this one. This one is for me, and everything's a dollar in this box. Cufflinks and hubcaps, and trophies and paperbacks. Good transportation, but the brakes aren't so hot. Neckties and boxing gloves. This jackknife is rusted. You can pound that thing out on the hood. A tinker.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Mort à Ouzbine, en Afghanistan. Notre invité aujourd'hui, Jean-Dominique Mercher. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes journaliste au journal L'Opinion. Vous étiez à Libération avant, hein, jusqu'en
2008. J'étais à Libération, voilà. À l'époque des événements.
Exactement. Auteur du blog Secret Défense et du livre, surtout du livre Mourir pour l'Afghanistan, édité chez Jacob Duvernay. Alors, déjà un bilan. En 2008, après 7 ans d'intervention et de guerre en Afghanistan, la situation est toujours aussi fragile, avec même une recrudescence des combats. On se souvient surtout alors de cet énorme bavure du 6 juillet, le jour où la coalition a bombardé et tué 47 civils qui participaient à un mariage. Et puis on estime que 237 civils ont été tués au cours de cette année 2008. Dit comme ça, cette opération apparaît comme un échec patent. Est-ce que c'est un échec, selon vous? Et si oui, pourquoi?
En 2008 ou aujourd'hui, en 2016?
On peut parler de 2016, mais parlons de 2008 d'abord, si vous voulez.
En 2008, on est au milieu du guet. Ce qui s'est passé, c'est que au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, les Américains décident d'intervenir en Afghanistan et la France va avec eux par solidarité, simplement par solidarité avec les Américains.
Et elle décide, les Américains décident d'aller en Afghanistan parce que c'est le territoire de protection de Ben Laden.
Parce que Ben Laden est réfugié en Afghanistan, que la communauté internationale demande au gouvernement afghan, qui sont les talibans, de lui donner Ben Laden, ce que les talibans refusent de faire. Donc on est allé le chercher. On ne l'a pas trouvé tout de suite, mais en tout cas on a détruit une partie d'Al-Qaïda. Donc la France va en Afghanistan en solidarité avec les Américains. Et à l'époque, personne ne conteste ça. Ce qu'on voit, c'est que là, 2008, donc nous sommes 7 ans plus tard, la situation, au fond, a été. On n'a pas vu une grande différence. C'est-à-dire que les Français sont là, ils sont restés dans le secteur de Kaboul, mais ils n'ont certainement pas pris conscience qu'il se déroulait une vraie guerre en Afghanistan. Ouais. Et ce qui se passe cette journée du mois d'août, c'est que tout d'un coup, ce qu'on pensait être une opération militaire, comme on en avait fait déjà beaucoup dans les Balkans, plus ou moins de maintien de la paix, de rétablissement de la paix, tout d'un coup, on se rend compte que ce n'est pas ça, et c'est la guerre. D'ailleurs, le chef d'état-major des armées de l'époque l'avouera après. Il dira, ce qui s'est passé, c'est une armée qui a redécouvert la guerre. On avait oublié
avec
ça.
Ses pièges, et notamment avec ses erreurs.
C'est-à-dire, à la guerre, il y a des embuscades, il y a des morts, on tue des ennemis, mais on perd aussi des gens. Au fond, on a redécouvert l'ordinaire de la guerre, où on perd nos soldats. Et tout d'un coup, ça a été un choc, c'était au mois d'août. Tout d'un coup, on se rend compte, je me souviens, je suis là, rentré de vacances, et j'ai des appels de confrères, de radio, qui m'appellent, Monsieur Merchet, il se passe des choses en Afghanistan, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer. Et notamment, il y a cette question qui me marque encore aujourd'hui. Les gens me disent, mais ces soldats étaient très jeunes. Et là, je me dis, moi, je suis un spécialiste des questions d'histoire militaire, des questions militaires. Je me dis, c'est quoi cette question? Les soldats sont toujours jeunes. En 14, ils avaient le même âge. Un soldat, ça a 20 ans. Et un soldat qu'on envoie à la guerre, il meurt à 20 ans. Ouais. Et on a redécouvert ça tout d'un coup. C'est ce qui se passe aujourd'hui.
Depuis les Aurès, hein, depuis avoir 20 ans
oui,
dans les Aurès.
Avoir 20 ans dans les Aurès, c'est ça. Ouais. C'est d'où la comparaison, votre comparaison est très bonne. C'est exactement ça. Il est naturel, normal, sans disonner un côté moral, mais il est naturel qu'à la guerre, ce soit des jeunes hommes qui meurent, puisque les soldats sont des jeunes hommes.
Puisqu'on parlait de parallèle, on peut faire le parallèle avec l'embuscade de Palestro en mai 56, en Algérie, en Kabylie plus précisément.
Absolument. C'est à peu près la même histoire. Il y a des événements, comme on disait, en Algérie, et puis tout d'un coup, un certain nombre d'appelés du contingent sont massacrés dans une embuscade par le FLN, dans des conditions assez horribles. Et là, l'opinion publique prend conscience de quelque chose. Elle prend conscience que ce qui se passe, c'est vraiment du sérieux. Et là, l'embuscade Ouzbin, c'est vraiment ça. C'est la bascule entre une position qui était de maintien de la paix, de rétablissement de la sécurité, et on est rentré dans la guerre.
Et d'un point de vue technique, plus technique, manifestement, il y a erreur de commandement. Hein. Puisque le général Michel Stolzener, commandant des forces de l'OTAN dans la région de Kaboul, reconnaît avoir péché par excès de confiance.
Oui, il a eu la phrase qu'il fallait. Il y a eu un excès de confiance parce que l'armée française n'était pas dans une posture de guerre. L'armée française, cette embuscade, cette patrouille de la section du 8e RPIMA, ils la font comme ils l'auraient fait dans un pays relativement tranquille. Il n'y a pas ce que les militaires appellent des appuis, c'est-à-dire de l'artillerie, de l'aviation, pour venir soutenir immédiatement. Il n'y a pas de reconnaissance. Alors, dans les premiers jours, on nous expliquera, si, tout était bien, tout était en place, tout s'est fait sur les procédures. Bah oui. Et évidemment, dans les semaines et les mois qui suivront, on enverra tout le matériel qu'il manquait ce jour-là, c'est-à-dire des moyens de reconnaissance, des moyens de soutien, des hélicoptères. Il n'était pas là. C'est parler d'erreur de commandement, c'est une erreur de système, c'est une erreur systémique. C'est très difficile de pointer des responsabilités individuelles. C'est l'organisation. La France n'avait pas. Les politiques, les responsables militaires, à Paris, sur place, n'avaient pas pris la dimension en compte la dimension de la guerre. Et tout d'un coup, ils sont pris dans la figure. Malheureusement, on a 10 de nos soldats qui en sont morts.
Alors, vous disiez, effectivement, ils avaient 20 ans. Oui, les gens qu'on envoie à la guerre ont souvent cet âge-là. Bah, n'empêche qu'ils ont 20 ans et que pour leur famille, c'est tout à fait épouvantable. Et Annel Verzo, notre reporter, est allé à Montévrin, en région parisienne, à la rencontre de la mère d'un soldat tué lors de cette opération à Ouzbin. Il s'agit de Laurence Lepin, qui est la mère du soldat Julien Lepin, qui s'était engagé dans l'armée un an tout juste avant ce drame. Nous allons écouter ce témoignage ensemble et nous le commenterons ensemble juste après.
Je suis insomniaque, j'en bois pas après. Je sais. Voulez-vous mettre là, ça vous convient?
Oui, c'est parfait.
Julien Lepin, né le 20 août 1988 à Nogent-sur-Marne. Là, c'est sa carte de circulation.
Ça, c'est l'armée qui nous a rendu ça, oui. Mais ça n'a pas bougé. En fait, moi, les objets ne bougent pas depuis 7 ans, quoi, quasiment, malgré les déménagements.
Oui, là, on est dans votre salon et il y a des photos
de Julien en militaire, parce que je n'arrive toujours pas. J'ai 7 ans après, j'ai enterré le militaire, mais pas le fils. Donc, je n'arrive pas à regarder des photos de Julien en civil.
Il avait 19 ans.
Il avait 19 ans. Et la veille de ses 20 ans, enfin, il est décédé le 18 et il est né le 20 août. Et avant de partir, il avait écrit sur son blog « Je voudrais qu'on fasse une grande fête à mon retour pour mes 20 ans ». Il était censé revenir en décembre et on nous a ramené son corps le jour de ses 20 ans. Donc voilà, c'était pas la grande fête qu'on imaginait. Donc depuis 7 ans, excusez-moi, je suis toujours très émue quand j'en parle, mais je revis là, jour et nuit, sans arrêt. Bon, comme vous le voyez, je suis croyante, donc ça m'aide beaucoup. Et mon fils, ben, je l'ai mis en militaire partout, parce que je ne peux pas, photo de civil, c'est trop dur. C'était, le militaire, je ne le connaissais pas. Voilà, c'est...
Ça me permet de prendre un peu de distance.
Ça me permet de prendre un petit peu de distance. Et... Vous voyez, ils sont tous là. Ils sont là. Vous voyez, il n'était pas épais. Hein. Julien, qui était très fier de sa formation d'auxiliaire sanitaire, qui voulait reprendre ses études dans l'armée pour devenir infirmier. C'était son but.
Est-ce que vous savez de quelle façon il est mort ?
Alors, moi, au départ, on m'a dit, un des ministres m'a dit, votre fils est mort d'une balle dans la tête, sur le cou. Je me suis dit, merci mon Dieu, j'ai prié le ciel. J'ai dit, merci mon Dieu, au moins, il n'a pas souffert. Ce qui a été terrible, c'est quand on a découvert, ma fille est partie 2 mois après, avec ses frères et la petite amie de l'époque de mon fils, à Castres, pendant les vacances de la Toussaint, pour rencontrer les rescapés. Les militaires escapés, et ben eux, ils ont parlé. Et elle voulait pas me le dire, que Julien avait beaucoup souffert, qu'il avait agonisé, qu'avec les radios, ils ont entendu. Parce qu'en fait, Julien a été touché, il a été blessé. Une balle, il semblerait, lui aurait traversé le ventre, et la colonne. Donc, il était à terre. Il a eu le temps de mettre à l'abri un de ses chefs. Il a été touché, c'était le premier touché. Suite, le deuxième touché, c'était le fils de Jean-François Buil qui a voulu aller chercher Julien, le secourir. Tous ceux qui ont voulu aller secourir les autres, ils sont tous morts.
Vous avez fait tatouer Ousbine sur le poignet,
là ? Voilà, Ousbine, avec la date de sa mort et une croix, parce que je suis croyante. Je voulais avoir mal pour prendre un petit peu de la douleur de mon fils.
Est-ce que vous vous souvenez ?
Oui.
Quand Julien s'est engagé dans l'armée.
Oui, en fait, c'est une idée de son père et de moi, parce que moi, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour l'armée. Et Julien avait fait pas mal de bêtises dans sa jeunesse. Donc, il avait un moment, il n'avait plus rien, et ça, on ne savait plus quoi faire de lui. Donc. Et nous, on s'était dit, mais pourquoi tu n'irais pas te renseigner pour t'engager ? Vous savez, on ne s'imagine pas quand on s'engage qu'on va aller à la guerre. De toute façon, la guerre, on n'en parlait pas en 2008. Il y avait déjà des soldats qui avaient été tués, mais on n'en parlait pas aux informations. Pas du tout, on ne parlait pas de guerre. Il s'est engagé, on n'imaginait vraiment pas, quand il allait s'engager, qu'il allait partir faire la guerre en Afghanistan.
Vous êtes allée ensuite en Afghanistan ?
Oui, moi ça... De toute façon, avant que M. Sarkozy le propose, moi je voulais y aller. On est parti, donc ça nous a permis de refaire connaissance encore plus avec les familles, de se rapprocher, et ça a été une aide. C'était très dur quand les armées de l'OTAN ont quitté l'Afghanistan aussi. J'ai été très mal. J'ai beaucoup
en 2014
pleuré. Oui. Ils avaient fait une grande plaque où on a découvert la première fois le nom de notre enfant gravé. Ça encore, ça a été terrible. On s'est dit oui, il doit être vraiment mort.
Ils ont quel âge vos enfants, les autres ?
Alors Marine a 24 ans, Aurélien 22 et Pierre-Louis 16 ans. Mais ils vont pas bien. Non. 7 ans après, c'est pas ça. Mais son frère Aurélien et ses yeux n'ont jamais brillé depuis la mort de son frère, depuis 7 ans.
Il écrivait, Julien ?
Oui, en fait, Julien faisait du rap. Et il écrivait de très très beaux textes de rap. Allez voir, il a écrit ça avant de partir en Afghanistan, vous n'allez pas le croire. Et vous allez voir le texte, en fait, c'est ce qui s'est passé exactement.
Un départ pour un retour.
Absolument. Et en voici un extrait, ce sont les derniers vers. Je ne suis qu'un jeune à la tête dure qui vit sur une ficelle. Je ne suis pas invincible, les balles me font peur. Mais j'aurai moi-même une cible parfois dans mon viseur. Mes parents me manquent déjà, mes frères et ma petite sœur. Oh, j'ai pas honte de vous dire ça, mais ça me brise le cœur. Un jour, je reviendrai, je serai différent. Mais devant vous, vous reverrez toujours le même grand con. Le désert m'aura séché et l'amour réhydraté. Les montagnes m'auront grandi et le sang m'aura séduit. Voilà, ce jeune écrivait bien. Alors je disais, on va commenter. Non, on va pas commenter parce que les mots de cette femme suffisent à eux-mêmes, ils sont assez forts. Peut-être peut-on arrimer une question quand même à ce propos. Les guerres classiques, traditionnelles, ont laissé des victimes, des mémoires, des monuments aux morts. Parce que c'était assumé en tant que guerre, là on n'a jamais voulu dire son nom. Est-ce que ça rend la mémoire des soldats plus difficile, des familles plus difficiles ?
Oui, c'est toujours difficile de donner un sens à ce qu'on appelle le sacrifice du soldat. Le soldat qui s'engage, il sait, le jeune qui s'engage, il sait ce qu'il fait. C'est-à-dire que on ne lui ment pas. Quand on s'engage dans l'armée, il sait qu'il peut aller à la guerre. Il y avait eu avant l'Afghanistan, il y a eu la Bosnie. En Bosnie, il y a eu 80 morts aussi dans l'armée française. Il y en a eu d'autres après. Mais quel sens on donne à cette mort ? Comment la société, comment le pays, comment la France exprime ça ? Alors, pendant très longtemps, si on pense à la guerre de 14 ou à d'autres guerres, on mourait pour la patrie. On comprend bien ce que ça veut dire à Verdun, pour la patrie.
Avec l'ennemi sur notre sol, sauver notre sol aussi.
C'est beaucoup plus compliqué lorsque on envoie des jeunes dans une vallée du fin fond de l'Afghanistan, où manifestement les intérêts de la France ne sont pas en jeu directement. On y est par pure comme solidarité avec notre allié américain qui avait été attaqué. Donc on voit bien que c'est compliqué à justifier et on a entendu, vous l'avez rappelé, ce que disait à l'époque le président Sarkozy et puis on entend aujourd'hui les mêmes choses sur l'opération Barkhane au Sahel, au Mali, voilà. On a en même temps une armée professionnelle, c'est-à-dire que on n'oblige plus depuis 1962, c'est-à-dire depuis maintenant plus de 50 ans, des jeunes Français à aller faire la guerre s'ils ne le veulent pas. C'est un changement considérable dans notre histoire. La dernière fois où on a dit à un Français, un jeune Français, tu dois aller faire la guerre et tu n'as pas le choix parce que si tu n'y vas pas, les gendarmes vont venir te chercher, c'est pendant la guerre d'Algérie. Depuis lors, il y a eu évidemment beaucoup de guerres, mais à chaque fois, les gens qui y sont allés parce qu'ils avaient à un moment dit « oui, je signe pour y aller ». Donc, on est dans un rapport peu différent. On entend cette mère qui dit « j'ai poussé mon fils à s'engager ». Et c'est intéressant ce témoignage. Je veux dire, alors évidemment, il y a ce deuil qui est évidemment totalement irréparable. Mais c'est l'affaire de son fils. Ce que nous, Français, ce à quoi nous devons répondre, nous, Français, c'est à la mort du soldat français. Parce que ce soldat français, il meurt en notre nom, d'une certaine manière. C'est nous qui l'avons envoyé là-bas. Ouais. Sa mère lui a dit, tu devrais, parce que t'as fait des bêtises, tu devrais t'engager. Ça, c'est son problème personnel. Notre problème collectif de citoyens français, c'est que nous avons élu des gouvernements qui ont décidé, légitimes, démocratiques, qui ont envoyé notre armée, que nous finançons avec nos impôts, que nous aimons par ailleurs, tous les sondages le montrent, et nous décidons de les envoyer. Donc comment nous expliquons ça, nous justifions ça ? C'est la question que tous les Français doivent à un moment s'interroger lorsqu'il y a un soldat français qui meurt.
Bien sûr. Alors, les motifs de cette guerre, nous allons consacrer une émission d'affaires sensibles au nom de la France pour la coalition de 2003. Parce que le postulat, c'est que cette guerre, c'est quand même une sorte de complot, puisqu'elle se fait sur un grand mensonge, qui est celui de la présence d'armes de destruction massive, ce qui était faux. Bon, c'est la guerre en Afghanistan quelque chose de plus légitime, dès lors qu'elle répond à une logique géopolitique et d'appartenance à l'OTAN, et aussi parce qu'il y a l'agression, quand même. Hein, il y a quand même le... Bon... Toutefois, Jacques Chirac et Lionel Jospin sont prudents. Nicolas Sarkozy, lui, pousse la logique et renforce cette logique de la présence de la France. Pourquoi ?
D'abord, je pense que ça correspond à la personnalité de Nicolas Sarkozy, de toujours en faire un peu plus qu'il est nécessaire. Donc, on est allé un peu là où, effectivement, Jacques Chirac et Lionel Jospin étaient plutôt sur le retrait. Il était allé, mais faisait une sorte de service minimum. Nicolas Sarkozy a voulu en faire plus. Il a voulu en faire d'autant plus que, au même moment, la France réintégrait le commandement de l'OTAN et que donc il s'agissait
d'acter ça, quoi.
D'acter ça et de dire aux Américains, regardez, nous sommes dans cette opération, en échange de quoi vous nous donnerez des postes de responsabilité au sein de l'Alliance. C'est un peu inavouable, mais il est clair qu'une partie du résultat de l'opération, de l'engagement français en Afghanistan, a été que des généraux français ont des postes de responsabilité au sein de l'OTAN. C'est pas terrible à dire, mais c'est quand même un peu ça. Et la question qu'il faut se poser, oui, cette guerre était légitime au départ. Le problème, c'est que si on la regarde aujourd'hui, c'est-à-dire 15 ans après, puisque c'est 2001, nous serons bientôt à l'anniversaire du 15e anniversaire en 2016, le bilan est nul. C'est-à-dire que nous sommes partis, nous avons quitté l'Afghanistan, l'armée française a quitté l'Afghanistan, 89 de nos soldats y sont morts, des centaines ont été blessés, des centaines d'autres ont des blessures psychologiques, parce que on ne les voit pas, mais elles sont là. Et que voit-on en Afghanistan? Eh bien, la guerre continue, les talibans sont toujours là.
Oui.
J'entendais le ministre de la Défense de l'époque évoquer les droits de l'homme, ou le président de la République évoquer les droits de l'homme, ou de la femme. Manifestement, la situation des femmes afghanes ne s'est pas améliorée depuis 15 ans. Bref, tout ça, ça n'a servi à quoi? Ça a servi, honnêtement, à pas grand-chose. Et on s'est enferré dans une guerre. Lorsque je publie le livre pour lequel Mouvin était, à la suite de cette embuscade, les derniers mots du livre, c'est « Il faut trouver la porte de sortie et vite ». Ça m'a été énormément reproché. J'étais un mauvais patriote, un mauvais français, alors qu'il y avait des morts comme ça, il fallait... Et finalement, est-ce que nous ne sommes pas en train de commettre les mêmes erreurs là où nous intervenons aujourd'hui, au Sahel ou ailleurs, où on s'enferme dans les guerres sans avoir jamais, jamais de solution politique à offrir?
Bon, on a quand même mis la main sur Ben Laden, mais même pas en Afghanistan, il y aura au Pakistan.
Mais on l'a mis en 2011, donc bien après, au Pakistan, et c'est les Américains qui l'ont fait, mais voilà.
Bon. Et est-ce qu'on parle encore d'Ouzbine au sein de l'armée française? Est-ce que ça devient comme ça un souvenir noir, une référence dramatique?
Assez peu, vous savez. L'armée française, c'est une armée qui se renouvelle très 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 vite, où les générations passent très très vite, parce que les gens y font des carrières assez courtes, et il y a des générations comme ça. Il y a eu la génération des Balkans, il y a eu la génération de l'Afghanistan, et même cette génération de l'Afghanistan a déjà été effacée aujourd'hui par la génération du Mali et du Sahel. Aujourd'hui, finalement, l'Afghanistan, c'est déjà dans l'armée française de l'histoire ancienne.
Voilà, donc vous avez publié ce livre dont je recommande à nos auditeurs la lecture. Il s'appelle « Mourir pour l'Afghanistan ». Et le sous-titre, souvent les sous-titres sont importants, hein. C'est « Pourquoi nos soldats tombent-ils là-bas ?» ce qui rejoint le récit que
votre émission.
Je vous remercie infiniment.
Je vous remercie.
Au revoir.
Vous.